Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Je lisais la chronique de ma collègue Maria Mourani ce matin dans le Journal de Montréal. Toujours très intéressante à lire. Maria, elle parlait cette fois-ci du désengagement policier qui se ferait sentir. Puis j'avais envie d'en parler avec Alain Babineau, qui est sergent d'état-major retraité de la GRC, qui est un expert aussi sur le sujet du profilage racial, qui s'intéresse aux questions de sécurité publique privée, qui travaillait tout récemment à la Ville de Montréal comme commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques. Donc, je pense que c'était la personne tout indiquée pour jaser du texte de Maria. Monsieur Babineau, salut.
Bonjour, Madame
Trichet. Bon, tu sais, on va se poser la question, là. C'est un vaste programme. Vous allez me dire, là, est-ce que c'est possible de s'attaquer aux problèmes qui affligent la profession de policier sans pousser les policiers au désengagement? Puis, tu sais, pour nos auditeurs, puis moi-même, pour me rafraîchir un peu la mémoire, là, pour ceux qui connaissent pas le concept de désengagement policier, peut-être nous expliquer un peu c'est quoi?
Ben, écoutez, le désengagement policier, essentiellement, c'est les policiers qui... C'est une sorte de dénonciation de l'attention qui sont portées à leurs activités vis-à-vis des plaintes de discrimination raciale, oui, de profilage qui sont proférées contre eux. Mais écoutez, j'ai lu l'article de Mme Mourani, puis elle a parfaitement raison, parce que le désengagement policier existe, mais pas juste à Montréal. Juste partout en Amérique du Nord, aux États-Unis, même chose. Mais moi, ce qui m'a préoccupé un petit peu, c'est l'article qui appelle une certaine forme que j'appellerais une genre de justice populiste.
Oui, allez-y. Puis,
non, mais c'est ça qui m'inquiète un petit peu, parce que c'est ce genre de discours-là où on demande un retour aux bonnes vieilles méthodes policières, là, d'interpeller ou d'intercepter des véhicules au pif là, basés sur des perceptions de possiblement être impliqués dans le milieu criminalisé. Puis on sait de qui on parle là, lorsqu'on utilise des codes comme ça.
Oui. Tu sais, le désengagement policier, moi, je le comprends aussi. Bon, vous dites que c'est une forme, en quelque sorte, de protestation, mais moi, ce que je comprenais aussi, que c'était beaucoup de la peur. Puis je sais pas à quel point c'est vrai, mais tu sais, on a vu des vidéos qui circulaient, l'attention médiatique aussi qui est mise sur certains dossiers, puis il y a des policiers qui décident parfois, quand c'est pas très grave, de passer leur chemin, puis se disent, ben moi, ça me tente pas de vivre ça, ça me tente pas de vivre ce trouble-là. Ça, c'est un phénomène qu'on observe quand même à Montréal, M. Babineau, peut-être plus qu'ailleurs.
Non, pas plus qu'ailleurs.
Oh,
écoutez, non, absolument pas. Écoutez, c'est pas nouveau. C'est le même type de rhétorique ressorti en 2008 lors de la mort de M. Freddy Villanueva. Et à l'époque, la fraternité a dit que les policiers se désengageaient, qu'ils aimaient mieux se fermer les yeux plutôt que placer dans une situation qui pouvait leur apporter des problèmes. Mais écoutez, moi, j'ai lu une dissertation de doctorat d'un ancien policier de la ville d'Ottawa, M. Greg Brown, qui a sorti en 2019. Faut se mettre dans le contexte un petit peu, qui est avant la mort de George Floyd, là. Qui, lui, a interviewé 3660 policiers partout au Canada et au nord des États-Unis, à l'État de New York. OK? Moi, je recommande les gens qui veulent s'informer à cette problématique-là de lire la dissertation. Puis lui, il a identifié cinq causes du désengagement qui sont similaires à une recherche qui est sortie dernièrement de l'École nationale de police de Québec. Premièrement, c'est les craintes de répercussions et de conséquences. OK? Ouais. Ça, c'est, on vous l'avait mentionné. Ouais. Les critiques du public et la méconnaissance du milieu de policiers, ça, c'est sûr. Le manque de soutien organisationnel qui est sorti, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de dirigeants policiers de haut niveau, de directeurs de police, qui ne reconnaissent pas ce désengagement-là. Ils disent que non, ça n'existe pas. Mm. C'est normal qu'il y ait des policiers qui quittent. Fait que ça aussi, ça est ressorti. Le sensationnalisme médiatique, ça, c'est sûr qu'il y a certains médias qui sensationnalisent beaucoup les événements. Puis finalement, c'est la perception du sentiment, d'un sentiment d'injustice contre les policiers.
Ouais.
Fait que ça, M. Brown a identifié ça dans sa recherche très exhaustive. Puis il est en arrivé avec des solutions. Là, je vais vous laisser continuer. Je ne vais pas prendre, mais je vais vous en parler dans quelques instants. Là. Vous avez des questions?
Non, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on mélange beaucoup d'affaires ici. Là. Mmh. Madame Mourani parle notamment que le profilage s'amène à moins de prévention, à moins d'actions qui pourraient peut-être mener à des arrestations. Mais en quoi, par exemple, des gestes de prévention pourraient aider au problème des armes à feu puis de la violence armée? Moi, j'ai l'impression qu'on met tout ça dans le même panier là, puis qu'on brasse ça.
Écoutez, il n'y a aucune recherche crédible par des criminologues qui ont identifié justement accentuer des mesures comme elle en pré-criminelle ou quelque chose comme ça qu'elle a mentionné dans son chose. Autre mot, comme le stop and frisk de New York ou des interpellations arlétoires, qui mèneraient à de la prévention criminelle. Il n'y a aucune espèce de recherche qui a été faite nulle part en Amérique du Nord qui porterait à prouver cette théorie-là. Ça, c'est numéro un. Mais qu'est-ce que les recherches ont prouvé? Par exemple, le stop and frisk de New York, l'expérience de stop and frisk de New York, a dit que ça ne fait qu'accentuer le fossé entre les communautés et les services de police. En autre mot,
vous voulez dire la confiance qui est déjà tellement ébranlée?
Exactement. Puis ça leur sortit comme étant une des parce que lorsqu'on met des pratiques en place sur les policières ou autres, il faut regarder les répercussions de ces pratiques-là. Et puis est-ce que le feu en vaut la chandelle? Je sais pas si j'utilise l'expression comme il faut, là, mais est-ce que ça vaut la peine de faire ça ou on ne crée pas un problème qui est encore beaucoup pire? Vous voyez?
Oui.
Fait que comment solutionner le problème, puis ça, les policiers à Montréal le disent partout comme ailleurs, c'est que pour le problème des armes à feu, c'est la participation de la communauté qu'ils ont besoin. La notion qu'on va pouvoir envoyer des policiers puis mettre un terme à la violence aux armes à feu partout au Canada, c'est irréaliste. Alors, on a besoin de l'apport de la communauté. Puis si les communautés racisées, par exemple, se mettent à dos la police, ne veulent pas collaborer, non seulement ils deviennent des victimes eux-mêmes, encore plus, ça a été démontré, par exemple, que ce sont ces communautés-là qui deviennent les victimes numéro un, ils ne seront pas capables d'aider, ils ne voudront pas aider aux services policiers. Vous voyez?
Ouais, ben c'est parce qu'on a une grosse job en amont à faire là. Absolument. En ce sens-là, bon, si on prend l'exemple de Montréal, la nouvelle directrice du SPVM par intérim là, quand même une large pente à remonter. Mais tu sais, quand on regarde tout ça, puis tu sais, aujourd'hui c'est les 2 ans de la mort de George Floyd, ça a marqué l'imaginaire de tout le monde à l'échelle planétaire. C'est dommage qu'on ait besoin de ces événements-là pour commencer à se poser davantage de questions. Mmh. Mais comment? Monsieur Babineau, comment on... Puis vous avez peut-être pas la réponse, là. Ça vaudrait cher si vous l'aviez, par contre.
combien?
Non, mais je sais pas, mais je pense que la mairesse de Montréal serait prête à vous payer cher. Okay. Comment on s'attaque aux problèmes de profilage, de racisme dans la police, en même temps de valoriser la profession pour éviter le désengagement? C'est-tu des enjeux compatibles, tu sais, premièrement, là?
Exactement. Je prendrai pas crédit pour des recommandations que le Dr. Brown a mis dans sa dissertation, mais il a identifié des points très importants. Numéro un, c'est les caméras portatives pour tous les policiers.
Mais ça, il n'y a pas un projet pilote à Montréal, en ce sens-là, là, normalement, qui devrait commencer?
Le projet pilote a déjà eu il y a quelques années à Montréal, il y a eu en province là aussi, mais ça, c'est une des choses que le Dr. Brown a identifié, les caméras portatives, pour justement donner plus confiance aux policiers que leurs interventions seront enregistrées de façon correcte. Ça, c'est numéro un. Deuxième chose, il y a amélioré la connaissance par le public du travail de policiers de première ligne. Ça a ressorti de partout, c'est que le public ne connaisse pas réellement qu'est-ce que les policiers font de jour en jour, si on veut. Et puis, troisièmement, c'est d'augmenter le support institutionnel pour les policiers. Alors, j'ai vu dernièrement que la Fédération des chefs de police du Québec a commencé à faire des capsules pour justement valoriser, augmenter ça. C'est excellent.
Tu voulais dire pour expliquer à la population c'est quoi être un policier sur le terrain.
Oui. Absolument, c'est très, très, très important parce que bien des gens ne savent pas. Fait que c'est pour contrebalancer aussi les vidéos négatives qui sortent, OK? Alors, on demande que le travail de policier de première ligne sur le terrain, moi, je vous le dis que c'est le travail le plus difficile qu'il y a à faire dans la police.
Pourquoi?
Absolument, parce que c'est des événements, des choses qui se produisent sans planification. Les policiers doivent réagir souvent du meilleur de qu'est-ce qu'ils peuvent avoir. Ils ne peuvent pas prévenir qu'est-ce qui va se passer sur le terrain.
Mais la formation, est-ce qu'elle est encore adéquate? Parce que quand je regardais le docu-réalité sur la police à Télé-Québec, on entendait des témoignages de jeunes policiers. Ça faisait pas tant longtemps que ça qu'ils étaient sortis de l'école. Monsieur Babineau, on parle de 3-4 ans, là, pas des vétérans que ça fait 20 ans qu'ils pratiquent, là, puis qui disaient ma formation que j'ai eue 4 ans, déjà là, le métier de policier s'est complètement transformé. J'avais l'impression qu'on avait plus affaire à des travailleurs sociaux avec des guns que d'autres choses. Là.
Mais ça, c'est la police du 21e siècle, madame.
Oui, mais c'est ça, mais ben oui.
C'est la réalité de la police du 21e. Une autre chose que le docteur... Puis là, je vais parler exactement de ce qu'il venait de mentionner. Ouais. On se doit de faire une meilleure sélection des aspirants policiers. Ça, c'est numéro un. L'attitude envers la diversité, là, selon moi, et selon pas juste moi, des chercheurs aussi, de France Université de Trois-Rivières, et la caractéristique ou l'attitude numéro un sur laquelle on devrait sélectionner nos policiers. Pas comment ils peuvent faire de push-up ou comment ils peuvent faire de longueur de piscine puis des choses comme ça. C'est l'attitude envers la diversité. Pourquoi? Parce que, justement, ce sont des personnes qui vont avoir à agir avec une diversité de plus en plus accrue au Québec.
Mais là, la police de Québec, l'autre fois, qui se félicitait d'avoir son premier policier noir, tu sais, OK, ben cool, là, mais ça en prend plus qu'un, hein?
Comme on dit, bon chance, monsieur.
Oui, il va être un peu le token, là. Il va porter une lourde charge sur ses épaules, ce pauvre gars.
J'ai passé par là, on pourrait s'en parler plus, mais j'ai passé par là moi-même. Alors, la deuxième chose qui est très importante, c'est que ces jeunes-là soient capables de résister aux pressions des pairs sur le terrain. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que ces jeunes-là, remplis de bonne volonté, tout ce qu'ils ont appris au cégep, tout ce qu'ils ont appris à l'école de police, arrive sur le terrain, puis la première des choses qui se font dire, c'est que oublie ce que tu as appris dans les écoles, je vais te montrer c'est quoi la vraie police. Fait qu'il y a des jeunes qui vont être plus résilients, c'est-à-dire qu'ils vont dire non, moi je veux faire de la bonne chose, mais il y en a d'autres, par peur de se faire mettre de côté, ils vont céder. Fait que c'est là que ça vient rechercher ce que vous avez mentionné, des jeunes qui viennent commencer puis qui disent c'est épouvantable, disons. Mais c'est parce qu'ils se font influencer aussi par leurs mentors sur le terrain.
Je comprends.
Fait que ça, c'est important. Puis la troisième chose, la dernière chose, c'est l'important de sélectionner ces fameux mentors-là. Pas des menteurs, des mentors. Parce que ce sont on doit avoir des policiers. Oui, avec beaucoup de services, beaucoup d'expérience, mais aussi avec une très bonne attitude du travail policier. Sinon, ils vont teinter ces jeunes-là. Puis ça, ça va enlever.
Mais est-ce que ça se peut être police pendant longtemps puis demeurer entre guillemets Je sais pas ça serait quoi le bon mot à utiliser, mais je vais aller à l'envers. J'ai l'impression que le travail de policier brise les policiers à la longue.
Oui, effectivement. Non, absolument. Le travail de policier, particulièrement le travail de policier de première ligne. Là,
c'est dur de ne pas devenir désengagé, aigri, fâché contre certaines populations.
Absolument. Mais moi, je crois beaucoup que la majorité des policiers, ce sont des individus raisonnables.
Oui, bien sûr.
Éventuellement, ces policiers-là ont tellement d'amour pour le travail de policier qu'ils vont garder quand même une attitude professionnelle.
Mais ce sont des humains, hein, puis on l'oublie souvent.
Absolument. Puis c'est ça, là, je reviens à l'importance que ces gens-là soient appuyés par leurs gestionnaires et puis que la connaissance de leur travail par le public soit accrue.
Oui, bon, puis on lit que les policiers du SPVM font plein d'heures supplémentaires et tout ça, donc en plus d'avoir passé à travers une pandémie, ils sont fatigués, donc tu sais, il y a quand même aussi un problème de gestion des ressources. C'est pas simple, ce problème-là, au Québec, M.
Babineau. Non, j'ai été gestionnaire pendant des années. Écoute, on aime tout faire du surtemps. Il n'y a pas un policier qui va vous dire qu'il n'aime pas faire du surtemps. Mais en même temps...
Vous aimez ça?
absolument, du surtemps.
Mais pourquoi? Pour la paye ou pour le kick, c'est quoi?
C'est payant, chère madame.
Oh mon Dieu, c'est terrible.
Très, très, très payant, okay. Mais en même temps, Mais en même temps, nous, comme gestionnaires, on se doit d'être, de garder la tête froide, comme on dit, puis d'essayer de ne voir au-delà de l'argent, puis de voir...
Mais oui, parce qu'imaginez la qualité de vie de ces gens-là, puis les répercussions des violences qu'ils voient faire tout ça.
Et voilà. Mais la part du gain, je veux dire, écoute, on est toutes les personnes qui n'aiment pas l'argent.
Non,
donc,
non.
Ça, c'est normal, mais en même temps, c'est pour ça qu'on a des gestionnaires en place pour s'assurer que ces ressources-là soient gérées d'une façon où ils se brûleront pas. Mais c'est pas facile. Mais la notion d'augmenter plus de policiers, écoute, le SPVM, par exemple, est le service de police qui a le plus de policiers par capita au Canada.
Oui.
Le deuxième, je crois que c'est le deuxième. Je pense que la ville de Victoria, Colombie-Britannique, en a encore plus. Mais, par exemple, à Toronto, c'est 168 policiers par 100 000 habitants. Ici, à Montréal, c'est 104 et des poussières là, par 100 000 habitants. Alors, il faut garder les choses en perspective quand même. Mais définitivement que le surtemps, la bonne gestion des ressources, s'assurer que ces gens-là ne brûlent pas, parce que s'ils sont brûlés, ils ne pourront pas donner un service. Parce que, oubliez pas le désengagement, là, c'est pas juste. Il y a plusieurs niveaux. Le Dr. Brown, l'identité de sa dissertation, il y a plusieurs niveaux de désengagement qui peut aller à ralentir le niveau de réponse, le temps de réponse à un appel du public, un appel, c'est important dans certains quartiers, jusqu'à se tourner la tête, comme l'a mentionné, là, Mme Morali l'a mentionné dans ça. Ça fait qu'il y a quand même une marge là, entre les deux, là.
Oui, bien, c'est un sujet complexe qui ne se règle pas dans une chronique de 600 mots, sûr, M. Babineau, mais c'est l'amorce d'une réflexion que je trouve toujours intéressante. Toujours le fun d'en parler avec vous. Alain Babineau, qui s'intéresse au sujet du profilage racial et la sécurité publique, c'est un ancien de la GRC. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Mme Peterson. Bonne journée.